Jean 18 qui commence ce passage de la mort de Jésus-Christ. Et ce qui est intéressant, c'est que ça commence, la trahison en fait commence dans un jardin. Je pense que c'est pas du tout un hasard que finalement Jésus se trouve dans un jardin pour être trahi. Il faut se rappeler, quand on étudie l'évangile selon Jean, que c'est l'évangile où Jésus est décrit en tant que Dieu le Fils. Donc c'est véritablement Jésus qui conduit toutes choses selon la volonté du Père, ou c'est le Père plutôt qui conduit toutes choses, et donc Jésus qui suit le Père parfaitement là où il veut. Et en parlant d'un jardin, ce n'est pas du tout une coïncidence. Un jardin, ça signifie tout simplement qu'il y avait une petite muraille autour de ces oliviers. Et le mot Gethsemane, ça veut dire pressoir d'olive. Encore, ça montre ce qui va se passer. Jésus qui a été écrasé, finalement, pour donner cette huile, et l'huile qui est un symbole fort du Saint-Esprit, finalement. Jésus, donc, écrasé pour nous donner la vie. Enfin, finalement, comme il a dit, il faut que je m'en aille pour que je vous envoie le Consolateur. Encore, comme on a évoqué tout à l'heure, c'était dans un jardin, au tout commencement, où Dieu était et où l'homme s'est rendu au mal. Il s'est trahi lui-même, finalement, en cédant à la tentation du diable. Quelque part, Dieu aussi trahi par cet amour manqué. Parce que ils ont cédé encore à cette tentation de se servir au lieu d'obéir à Dieu. Mais encore dans ce jardin, un des amis de Jésus opère toute une autre sorte de trahison. Encore l'homme se trahit finalement, Dieu aussi, mais cette fois-ci, nous voyons que notre Dieu, qui est montré dans ce chapitre, puissant dans son amour, finalement, dans toute sa puissance, il s'incline jusqu'à la souffrance. Et la souffrance pour nous, et ça va jusqu'à ce que il change le mal en bien. Dernière image, il y en a plein, mais nous parlons du vallée de Cédron. Et effectivement, en 2 Samuel 15, il y avait un autre roi qui est descendu de Jérusalem, chassé par son fils, trahi par son propre fils. Nous parlons du roi David, chassé par son fils Absalom. Il descend la colline, il traverse le Kédron tout en pleurant. Il monte là-bas le mont des Oliviers. Ce n'est pas pour rien que le fils de David, encore une fois, il choisit ce lieu où tout cela doit se faire. Donc, verset 1, après avoir dit cela, sa prière, Jésus sortit avec ses disciples pour aller de l'autre côté du ravin de Cédron, où se trouvait un jardin dans lequel il entra, lui et ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait l'endroit parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas prit donc la cohorte et des gardes envoyés par des principaux sacrificateurs et par les pharisiens et s'y rendit avec des torches, des lanternes et des armes. Alors nous savons qu'une cohorte romaine peut se comporter de même 500 personne. Alors là, ce sont des gardes du temple. Et il fallait justement qu'il y ait ces gardes du temple pour assurer la paix pendant les fêtes, pour que les Romains n'interviennent pas. On se rappelle aussi que depuis des années maintenant, ces mêmes chefs religieux cherchent à arrêter Jésus pour le mettre à mort. Mais chaque fois qu'il y a des tentatives à sa vie, ils ont été arrêtés soit par Jésus qui traverse au milieu de la foule intouché, ou bien il y a la puissance de sa parole qui envoûte tellement ses auditeurs que personne ne peut porter la main sur lui. Mais ici, c'est tout différent. Ici, c'est éloigné de la vie. Encore, c'est choisi par Jésus lui-même. Et dans les images que je vous ai données, vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de végétation. C'est en face du temple même où il prie. Il est fort possible que Jésus, il voit la cohorte, il sait exactement ce qui se passe. Des centaines d'hommes avec des torches, avec des épées, et il sait exactement ce qu'ils venaient de faire, ce qu'ils veulent faire. Jésus, verset 4, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit, « Qui cherchez-vous ? » Encore, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est décrit ici. Ce n'est pas qu'ils l'ont arrêté, ils ont enfin trouvé leur proie. Non, il sort, parce que c'est lui qui a tout pouvoir. Et il savait que c'est son heure. Et comme il a dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie et de le reprendre. Personne ne me l'ôte. Donc ce n'est pas du tout une question de ces gens qui viennent pour enlever sa vie. Tout au contraire, il sort à leur rencontre et il pose cette question. Ce n'est pas parce qu'il ne sait pas, oh oui, c'est exactement pourquoi il venait ce jour-là. En plus, c'est le jour de Pâques, il fallait absolument qu'il meure. Jésus le savait, même mieux qu'eux. Il vient en grand nombre. S'il y a une révolte, s'il y a des disciples, s'il y a un guet-apens, là, ils auront tout ce qui est nécessaire pour arrêter l'insurrection. Mais ils rencontrent le seul homme qui a tout pouvoir. Et il dit, « Qui cherchez-vous ? » Ils répondirent, « Jésus de Nazareth. » Il leur dit, « C'est moi. » Judas, qui le livrait, se tenait avec eux. Lorsque Jésus leur dit, « C'est moi. » Ils reculèrent et tombèrent par terre. En grec, c'est beaucoup plus clair ce qu'il dit. Ce n'est pas tout à fait « c'est moi » ce qu'il a répondu. En fait, ce qu'il a dit, c'est « je suis ». Qui cherchez-vous ? Jésus de Nazareth, je suis. Et nous voyons encore ce symbolisme très très fort. Il se proclame le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob. C'est lui qui s'est révélé à Moïse dans la buisson ardent. Je suis qui je suis. Et par la puissance de son nom tout seul, ces gens tombent en arrière. Et s'ils avaient la force pour se tenir debout, encore une fois, c'est seulement parce que c'était son heure. Nous oublions trop souvent, je crois, en ce qui concerne Jésus, qu'il possède toute puissance. Même s'il était dans la forme d'un homme, comme il a dit dans l'évangile selon Matthieu, il avait des légions d'anges à sa disposition. Il pouvait à tout moment tout arrêter juste par la prononciation de son nom. Je suis. Il tombe par terre. Pour que eux, ils le sachent à qui ils ont l'affaire et aussi pour que les disciples comprennent. Alors, les disciples, justement, on peut très bien imaginer ce que eux, ils ont pensé avoir ça. Alors, eux qui attendent justement que le royaume de Dieu s'établit sur terre à ce moment-là, il devait être vraiment dans la joie à le voir. Ils disent, bah oui, il y a Jésus qui maintenant, avec la puissance de son nom, il assomme toute une cohorte. Mais ils n'ont pas encore compris. Alors, tournons rapidement en Luc. Luc, où nous lisons que juste avant, Jésus a expliqué que les choses vont devenir difficiles. Donc c'est Luc chapitre 22, verset 24. Il souleva aussi parmi eux une contestation, lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand. Et Jésus leur dit, les rois des nations, les dominés, et ceux qui ont autorité sur elles se font appeler bienfaiteurs. Il n'en est pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus jeune, et que celui qui gouverne comme celui qui sert. Nous pouvons être sûrs, ce que les disciples ont entendu, c'était plutôt celui qui gouverne. Et bien sûr, ils ont entendu le reste. Oui, il faut être humble, il ne faut pas être despote et tout le reste. Alors, sautons un petit peu, parce que ensuite Jésus avertit Pierre de ce qui allait se passer. Mais verset 35, il poursuit, il leur dit encore, « Quand je vous ai envoyé, sans bourse, ni sac, ni sandales, avez-vous manqué de quelque chose ?» Ils répondirent, « De rien. Maintenant, au contraire, que celui qui a une bourse apprenne, de même celui qui a un sac. » Et que celui qui n'a pas d'épée vende son vêtement et en achète une. Car je vous le dis, ce qui est écrit doit s'accomplir en moi. Il a été compté parmi les malfaiteurs. Et ce qui me concerne touche à sa fin. Ils dirent, Seigneur, voici deux épées. Et il leur dit, c'est assez. Alors gardez le passage. Donc, voyez que les disciples, dans leur esprit, se préparent pour la bataille. Ils ont les deux épées. Ils ont les sacs, ils ont les vêtements. Et maintenant, ils voient la cohorte. Ils voient qu'ils retombent face à terre. Encore par le puissant nom de Jésus. Je crois que le nom puissant de Christ, de Jésus, est une chose qu'on ne peut pas estimer. À quel point il est puissant pour nous protéger. À quel point il est puissant pour nous guider. Et là, puissant pour accomplir la volonté de Dieu. Et donc, il se relève. Et Jésus leur demanda de nouveau, « Qui cherchez-vous ? » Ils lui dirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus répondit, je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez partir ceci. C'était afin que s'accomplisse la parole qu'il avait dite, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donné. Normalement, les disciples doivent être pris avec le maître. Dans n'importe quelle insurrection, juste comme aujourd'hui, s'il y a des terroristes, on n'arrête pas seulement le cerveau, mais tout le cellule. Et c'est ainsi à cette époque. Or, Jésus n'est pas un terroriste, évidemment. Jésus est le maître de la vie. Et comme il a dit qu'il ne va pas perdre un seul de ses disciples, et comme c'est lui qui va à l'encontre, et c'est lui qui dirige tout et assure que les disciples partent pour accomplir justement la parole, frappe le berger et les brebis se dispersent. Donc normalement, les brebis, les disciples devaient se disperser. C'était ça la volonté de Dieu. Dieu voulait que ses disciples soient épargnés de tout ça. Parce que déjà, c'était une chose difficile. Et ce sont eux qui vont être les piliers de l'Église plus tard. Dieu savait aussi que si ces gens-là, qui devaient subir tout un changement si radical dans leur esprit, Dieu qui est patient et qui connaît toutes les profondeurs du cœur humain, il savait que s'ils devaient aussi passer par la torture, la prison, ça va être trop dur pour leur foi. Déjà, juste le fait de voir leur maître crucifié, ça va bouleverser tout leur être finalement. Jusqu'à ce que, même après la résurrection, remarquez que Pierre va inciter les autres à retourner à la pêche, finalement. Et donc, comme il veille sur eux, que j'aime ça, même dans le moment le plus ténébreux de l'humanité, il veille sur ses apôtres. À quel point nous n'avons rien à craindre. Lui qui est aujourd'hui assis à la droite du Père, qui intercède même pour nous, à quel point nous n'avons rien à craindre, sachant qu'il veille sur nous aussi. Et qu'il ne nous laisse pas passer par des choses qui sont trop difficiles pour nous. Mais qu'avec la tentation, il pourvoit toujours un moyen de sortir. Comme il dit en 1 Corinthiens 10, 13. Simon Pierre, qui avait une épée, la tira. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui trancha l'oreille droite. Le nom du serviteur était Malchus. Jésus dit à Pierre, « Remets ton épée au fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée ?» Enfin, Pierre, retournons en Luc. J'aimerais bien que vous voyez les petits détails que nous avons. À partir de verset 49, on sait pendant que Judas trahit Jésus. Ceux qui étaient avec Jésus, voyant ce qui allait arriver, dirent, « Seigneur, frapperons-nous de l'épée ?» Ils en avaient deux. Donc nous savons qu'il n'y en avait pas avec Judas, mais il y en avait une avec Pierre, et puis une autre quelque part dans la foule. Frappons-nous, est-ce le moment? Est-ce que c'est maintenant quand tu vas balayer ce monde de tous ces Romains? Et est-ce que c'est maintenant finalement que tu vas tout mettre en ordre? Frappons-nous? Ben oui, ils ont déjà vu comment le Seigneur a multiplié les pains et les poissons. Pourquoi pas? Mais Jésus prit la parole, tenez-vous-en là. Excuse-moi. Et l'un d'eux frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille droite. Mais Jésus prit la parole, tenez-vous-en là. Il toucha l'oreille de cet homme et le guérit. Et nous savons que son nom est Malchus. Alors si nous savons que c'est son nom, je suis persuadé que d'abord, c'est probable qu'il s'est converti plus tard. En étant guéri par le maître lui-même. Et sinon, c'est aussi pour ceci, parce qu'il était connu. Et s'il était connu, il n'y avait pas de blessure, il n'y avait même pas de cicatrice. Ah oui, c'est Malchus qui a perdu son oreille. Malchus, il a deux oreilles, lui. Il entend très bien. Peut-être même il entendait mieux après ça qu'il n'a jamais entendu de toute sa vie. Et si vous ne croyez pas, il suffit d'y aller et de voir Malchus qui témoigne lui-même de ce que Jésus a fait. Nous avons son nom, nous avons la preuve. Mais Pierre, et que c'est difficile parce que on voit toujours Pierre qu'il est toujours un pas derrière les autres. Tout le monde crie. Ben c'est maintenant. Eux, ils attendent la réponse. Pierre, non, il frappe. Certainement, ce qu'il voulait, c'était d'enlever la tête de Malchus. Mais il a raté le coup. Étant pêcheur et pas soldat, bon, c'était pas brillant de sa part de vouloir se battre contre un soldat professionnel de toute façon. Mais nous voyons qu'il ne lui manquait pas de courage. Cet homme avait beaucoup de courage finalement, et quand il dit qu'il voulait aller jusqu'au bout, c'était vraiment sérieux. Mais encore, à ce moment, il était en dehors de la volonté de Dieu. Quelle était la volonté de Dieu? Frappe le berger et les brebis se dispersent. Comme tous les autres, il fallait qu'ils s'en aillent. Mais frapper et se battre comme ça, ce n'est pas du tout dans la volonté de Dieu. Mais nous voyons comment Dieu peut réparer les choses. Et c'est bien que Jésus s'est intervenu dans cette situation, sinon Pierre serait crucifié avec lui ce même jour. Mais Jésus avait des choses, des plans pour Pierre. Ce n'était pas son moment de mourir. Et qu'est-ce que ça nous apprend? Que oui, nous pouvons faire des gros bêtises. Et ça, ben là, quand même, ça c'est le top. Hein. Mais, nous voyons que Christ, qui nous aime, qui nous connaît parfaitement, il a le pouvoir, la puissance de nous garder afin de nous présenter purs et irréprochables, finalement, le jour où nous serons avec lui pour toujours. Il peut nous garder en ses mains. Le proverbe dit, le juste tombe cette fois, mais il se relève. Et c'est ça la différence. Et nous verrons, pas cette semaine, mais plus tard, qui se relèvera finalement. Mais bon, la cohorte, le tribun et les gardes des Juifs saisirent alors Jésus et le lièrent. Ils l'amenèrent d'abord chez Anne, car c'était le beau-père de Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là. Et Caïphe était celui qui avait donné ce conseil aux Juifs, il est préférable qu'un seul homme meure pour le peuple. Alors, il faut que je vous explique deux, trois détails sur cette question de souverain sacrificateur. Parce que, en lisant la loi, nous savons que un souverain sacrificateur exerce son rôle pendant des années. Et là, nous parlons d'un sacrificateur juste pour une année. Anne, en fait, était le père de 5 autres souverains sacrificateurs. Alors, quelle est cette histoire de tous ces gens qui prennent ce rôle? En fait, en l'année 6 hein, de notre ère, en fait, les Romains ont pris le contrôle de Judée. Et à ce moment, ils ont pris la même politique, ils ont repris la même politique que les Grecs. C'était de choisir le souverain sacrificateur, parce que les Grecs et les Romains ont bien compris que c'est en réalité le souverain sacrificateur qui dirige le pays. Parce que c'est un pays qui est lié fortement à son temple, à sa religion. Alors, ils ont créé une poste, ou voilà, c'était plutôt ça, c'était une poste, c'était un office, hein, mais plutôt politique que religieux, même s'il y avait des aspects religieux. En fait, les Romains sont allés encore plus loin que les Grecs. Ils ont même confisqué les vêtements sacerdotaux des souverains sacrificateurs et ils ont laissé seulement sortir ces vêtements pour les jours de fête. Et puis après, ils les récupèrent pour qu'ils ne peuvent pas avoir d'interaction après. Et donc, chaque année, c'est Rome qui nomme le souverain sacrificateur. Et donc, Anne était le père de, encore comme on a dit, de à peu près 5 souverains sacrificateurs. Donc, Caïphe était un de ses fils. Et nous voyons donc l'importance d'Anne. Alors, la maison du souverain sacrificateur, il faut dire, était une chose assez spéciale. Bien sûr, c'était une très belle villa, maison, avec un cours, avec des belles arcades et tout. Mais, en dessous de sa maison était une prison. Et c'est là où on amenait les gens qui était accusé d'un tel ou tel crime. Il y avait plusieurs endroits où on peut le mettre, mais pour les criminels les pires, comme effectivement Jésus, il y avait comme une puits, en fait, hein, qui avait à peu près 2 mètres de profondeur. Il n'y avait pas d'escalateur, enfin, il n'y avait rien. En fait, soit on les poussait et puis ils tombent, ou bien on donne l'échelle ou quelque chose. Hein. Mais il n'y avait aucun moyen pour ces gens de s'échapper. Alors, imaginons la scène. On amène Jésus lié, c'est le jour de fête. Il y a toute sa famille, la joie et tout, plus haut dans la maison qui célèbre la Pâque. Donc, on amène avec ses centaines de soldats, Jésus enfin, finalement. Il y a le bruit des festivités, et puis il y a Jésus, et on l'amène pour être jugé sur le champ. Et tout ce qui se passe ici est tout à fait illégal. Ça ne devait absolument pas se passer comme ça. Il faut qu'il y ait du temps, justement. Il faut que les accusateurs soit mis en face des accusés, il faut qu'il y ait des témoins, au moins 2. Mais ils brûlent toutes les étapes parce qu'ils veulent que ça soit accompli le soir quand il n'y a personne qui voit, que ça soit fait au plus vite possible pour que finalement la fête puisse continuer dans la paix et la tranquillité. Rappelons que cette ville était remplie du monde. Il y avait presque 2 millions de personnes. On ne sait pas qui serait de ceux qui sont sympathisants de sa position, justement. Simon-Pierre, ainsi qu'un autre disciple, suivait Jésus. Ce disciple qui était connu du souverain sacrificateur, il entra avec Jésus dans la cour du souverain sacrificateur. Nous savons que c'est Jean. Comment est-ce que Jean est connu du souverain sacrificateur? Son père Zébédée avait un grand business et les gens qui ont beaucoup d'argent donnent beaucoup d'argent et dans un système corrompu, on sait qu'ils donnent beaucoup d'argent et on paie des faveurs pour ceux qui donnent beaucoup d'argent normalement. Et donc voyons ce procès. Nous voyons que Anne n'était pas un homme tout à fait honnête dans toutes ses affaires. Nous comprenons pourquoi il pouvait connaître un certain Zébédée et ses fils. Or, Jean était connu du suprême sacrificateur et connu en tant que disciple de Jésus. Pierre le suit. On ne sait pas pourquoi Jean était là. Peut-être Jean espérait venir à l'aide de Jésus, peut-être il était tout à fait dans la confusion totale, mais il laisse entrer Pierre. Pierre ne devait pas y être. Et alors la servante, gardienne de la porte, dit à Pierre, « Toi aussi, n'es-tu pas des disciples de cet homme ?»« Ah oui, bien sûr. » Comment est-ce qu'il puisse être là si ce n'était à cause de son affiliation avec Christ ? Il dit, « Je ne suis pas. » Les serviteurs et les gardes se tenaient là, après avoir allumé un brasier, car il faisait froid. Ils se chauffaient. Pierre aussi se tenait avec eux et se chauffait. Vous voyez aussi comment ça s'enchaîne. Pierre, qui était déjà en dehors de la volonté de Dieu, il refuse de s'échapper comme les autres parce qu'il se croit tellement fort en lui-même. Donc c'est maintenant, il marche par la volonté de sa propre chair, finalement. Il va jusqu'à renier le Seigneur devant tout le monde qui sait pour autant qu'il est. Ce n'est pas un mystère. Et puis, maintenant, il va plus loin et se réchauffe au feu de la nuit. Et voyez, dans une espèce de quelques heures, de quelle hauteur il est déjà tombé. Tout s'est bien sûr préparé d'avance. Pierre qui avait toujours cette mauvaise habitude de s'appuyer sur ses propres forces, qui pensait tout savoir, qui allait contre ce que Jésus a dit. Le souverain sacrificateur, verset 19, interrogea Jésus sur ses disciples et sur son enseignement. Jésus lui répondit, « J'ai parlé ouvertement au monde. J'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple, où tous les juifs s'assemblaient, et je n'ai parlé de rien en secret. Pourquoi m'interroges-tu ? Demande à ceux qui m'ont entendu de quoi je leur ai parlé. Voici qu'ils savent, eux, ce que moi j'ai dit. » C'est-à-dire, ils demandaient des témoins. Ce n'est pas à Anne d'interroger Jésus sur le champ comme ça. Et si il voulait le faire en tant que souverain sacrificateur, il fallait qu'il ait des preuves, il fallait qu'il ait des témoins. Où sont les témoins? Ben en fait, nous savons où étaient les témoins. Ils étaient en train de rassembler à la maison de Caïphe à ce moment-là. Mais nous savons, grâce aux autres évangiles, que les témoins étaient des faux témoins et n'arrivaient pas à condamner par leur témoignage. Qu'est-ce qu'il fallait finalement? Il fallait qu'ils jurent à Jésus ou qu'ils le mettent sur l'obligation de dire la vérité. Donc, bien sûr, il allait le faire. Est-ce que tu es le Christ? Jésus lui dit oui. Tu lui dis. Et de plus, tu verras quand je serai à la droite de Dieu, venant en puissance. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben là, ils étaient tout contents parce qu'ils ne croyaient pas. Et donc, ils ont dit, mais maintenant, nous sommes tous témoins. Et l'ont condamné pour blasphème. Jésus était innocent. Et les gardes ont bien compris, parce qu'à ces mots, verset 22, ces gardes qui se trouvaient là donnent une gifle à Jésus en disant, « Est-ce ainsi que tu réponds au souverain sacrificateur ?» Autrement dit, « Comment oses-tu renseigner le souverain sacrificateur sur la loi ?» Mais Jésus avait raison. Puis Jésus lui répondit, « Si j'ai mal parlé, prouve ce qu'il y a de mal. Et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu ? » Alors Anne l'envoya lié à Caïphe, le souverain sacrificateur, parce qu'il était innocent. Simon-Pierre se tenait là et se chauffait. Donc on revient un petit peu en arrière. Donc pendant tout ce qui se passe, Pierre se chauffe. On lui dit, toi aussi, n'es-tu pas de ses disciples? Il le nia et dit, je n'en suis pas. Un des serviteurs du souverain sacrificateur, parent de celui à qui Pierre avait tranché l'oreille, dit, ne t'ai-je pas vu avec lui dans le jardin? N'es-tu pas celui avec l'épée que tu as toujours sur les reins? Et Pierre le nia de nouveau. Aussitôt le coq chanta. Et c'est là où Jésus, lié et conduit vers Caïphe, regarde vers Pierre. Et je suis certain que c'est ce regard-là qui a sauvé Pierre. Parce que, en voyant les yeux de Jésus, il revient à lui finalement. Il descend de je ne sais pas quoi, de son fantasme, et puis il revient à lui, et il pleure amèrement. C'est la repentance. Et cette repentance est si nécessaire. Tournons en 2 Corinthiens chapitre 7, s'il vous plaît. Verset 9. C'est Paul qui dit, « Je me réjouis à cette heure, non pas ce que vous avez été attristés, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance, car vous avez été attristés selon Dieu, si bien que vous n'avez subi de notre part aucun dommage. » Il y a une tristesse du monde, il y a une tristesse qui vient de Dieu. Et nous pouvons être sûrs que s'il pleure en voyant le regard de Jésus, c'est la tristesse qui vient donc de Dieu. La tristesse du monde, c'est les larmes que verse n'importe quel criminel lorsqu'il se fait attraper par les polices. Il pleure tout simplement parce qu'il se fait attraper. Mais pas parce que il se repente. Alors que si Dieu nous accorde la repentance, ce qui est exactement le cas ici, c'est un don de Dieu qui nous permet de sortir. Il est bien de se repentir. De se repentir, ça veut dire de tourner le dos, d'abandonner justement ses péchés. Il est bien justement de pleurer ses péchés parce que d'abord, ça a coûté le sang de Christ, mais c'est ça ce qui nous sépare de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort, finalement. Et il faut que ces choses meurent. Soit que ça meure en nous, ou bien que ça va jusqu'au bout, et à ce que nous mourions aussi. Vaut mieux la tristesse qui vient donc de Dieu, la repentance, afin que ces choses meurent et que nous soyons sauvés. Pierre, qui était en dehors de la volonté de Dieu jusqu'à ce moment, nous voyons qu'il revienne dans les bonnes grâces du Seigneur en recevant justement la grâce de se repentir. Et j'aimerais ajouter à ceci que Pierre n'est pas un idiot. Hein. Ce n'est pas qu'il était complètement décalé de tout ce qui s'est passé. En fait, il avait beaucoup de courage. Il ne comprenait pas tout à fait ce qui s'est passé, comme tous les autres. Il était parfois très sourd à entendre, lent à comprendre. Mais il était choisi par Dieu pour faire une grande œuvre dans l'Église. Et s'il tombe, ça montre qu'il est fait de la même matière que nous aussi. Tournons en Galates 6, verset 1. Galates 6, verset 1. Nous lisons ceci. Si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que toi aussi tu ne sois tenté. Frères qui sont spirituels, s'il y a quelqu'un qui tombe, redressez-le en douceur, Paul nous dit. Et quelle parole à propos, parce que quand il y a quelqu'un qui tombe, surtout quelqu'un comme Pierre, et quelqu'un qui a une certaine notoriété finalement, à cause de sa position, qu'est-ce que nous voyons? Ceux qui se disent spirituels, ils le redressent pas, c'est plutôt ceux qui se disent spirituels, ben, ils sont les premiers à montrer le doigt en disant, ben, quelle bêtise, Pierre, après tout, renier le Seigneur, que devais-tu faire là? Et ça continue, et ça continue. Non. Si nous sommes véritablement spirituels, ça se montre dans notre compassion. Parce que qu'est-ce que Jésus, qu'est-ce qu'il a fait après sa résurrection? Il cherchait Pierre pour le redresser, justement, en toute douceur. Et quand nous faisons pareil, nous suivons dans ses pas. Parce que si nous sommes trop durs, nous nous ouvrons à subir les mêmes tentations. Et C'est quand on se croit si fort que finalement, on est vraiment à deux pas de tomber. Exactement comme Pierre. Donc, il y a énormément de ce que nous pouvons apprendre de ce petit épisode. Apprendre de sa chute. Rester dans la volonté de Dieu. Écouter à ses paroles. Deuxièmement, pour ceux qui tombent, redressez-les en douceur, finalement. Ne soyez pas prêts à juger, mais plutôt prêts à redresser, à aider. Verset 28. De chez Caïphe, ils amenèrent Jésus au prétoire. C'était le matin. Ils n'entraient pas eux-mêmes dans le prétoire afin de ne pas se souiller et de pouvoir manger la Pâque. Alors, ce petit détail se trouve seulement dans l'épître de Jean, ou l'évangile selon Jean. Peut-être parce que justement Jean connaissait ces gens-là, qu'il avait justement le droit de le dire. Et c'est finalement l'exemple le plus triste et le plus flagrant de l'hypocrisie. Les gouverneurs romains, ils ne se siègent pas à Jérusalem normalement. Ils viennent seulement à Jérusalem pour les fêtes, et ça pour garder la paix. En fait, eux, ils se siègent à Césarée, donc qui est sur la mer, pour justement prendre le bateau à Rome quand il y en a besoin, pour recevoir des troupes. C'est là, en fait, où Paul a été emprisonné à la fin du livre d'Actes. Et c'est là, normalement, où Pilate se siégeait. Mais s'il était là, il était là justement pour cela. Et normalement, un gouverneur romain, il se lève très tôt le matin, mais comme tout fonctionnaire, il ne travaille pas trop long dans la journée. En fait, non, c'était encore pire chez les Romains. Leur journée commençait à 6 heures du mat, et puis ça continue jusqu'à peut-être 11 heures, voire midi au maximum le soir, l'après-midi. Et puis hop, c'est terminé. Alors, sachant tout ce qui se passe, on peut très bien imaginer Pilate qui se lève un peu grognant. C'est le matin, qui sait de ce qu'il faisait. Nous savons que les mœurs des Romains n'étaient pas très bonnes. Donc certainement, c'était la fête dans la ville, donc encore plus chez Pilate. Il se relève le matin et puis il voit, hop, il y a tous ces gens-là qui, bien sûr, ils ne veulent pas qu'ils soient souliers. Donc il faut qu'ils fassent tous les efforts pour traverser la cour. Et puis, il vient les voir. Alors, qu'est-ce que vous voulez ce matin? On imagine très bien la situation. Et ils lui répondirent, « Si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne l'aurions pas livré. » Donc, bien sûr, c'est nécessaire que nous amenons cet homme. Sur quoi Pilate, qui était un homme sanglant, il faut ajouter, il leur dit, « Prenez vous-même cet homme et jugez-le selon votre loi. » Tout simplement, c'était le matin, ils s'en fichaient complètement. Qui voulait qu'il s'en occupe. Mais les Juifs lui dirent, il ne nous est pas permis de mettre quelqu'un à mort, parce qu'ils ont perdu ce droit quand Rome a pris le contrôle du pays. Et donc, maintenant, les oreilles de Pilate sont maintenant, il écoute beaucoup plus. Ah, le mettre à mort, alors là, ça c'est sérieux. Alors, qu'est-ce qui s'est passé alors? Donc, il entre dans le prétoire, il appelle Jésus. Donc, il paraît que Jésus ne va pas manger la Pâque ce soir-là, parce qu'il était la Pâque, bien sûr. Mais Jésus lui dit, il dit à Jésus, « Es-tu donc le roi des Juifs ?» Quelle était l'accusation? C'était sérieux. Prétendre le roi des Juifs, c'est vouloir enlever la puissance de Rome, inciter les gens à ne pas payer le taxe à César, ça mérite la mort aussi. Mais Pilate, comme il avait l'habitude, il voit la paix de Christ. Il voit aussi ces gens bien habillés avec un paysan. Hein? Et il doit se poser la question, mais ça ne colle pas. Roi des Juifs, c'est un Galiléen. Ça n'a rien à voir. Jésus répondit, est-ce de toi-même que tu dis cela ou d'autres te l'ont dit de moi? Encore, il demande des témoins. Est-ce que c'est toi qui le dis? Est-ce que tu le sais? Ou est-ce que tu entends eux seulement? Pilate répondit, moi, suis-je donc juif? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Pilate, il rétorque, hein? Ben c'est toi qui as été livré par eux. Mais il faut dire que Pilate, il a l'habitude que les gens supplient justement pour leur vie. Et là, il remarque qu'il y a quelque chose de très différent. Cet homme est complètement en paix. D'autant plus que sa femme lui a averti l'évangile selon Matthieu, qu'elle a beaucoup souffert à cause de lui. Alors, il s'intéresse beaucoup à ça. Jésus dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici. Son royaume n'est pas de ce monde. Certes, il va revenir. Il va revenir et il va régner sur terre, oui, nous y croyons, mais ce ne va pas être le même système du monde. C'est pour ça que les disciples ne pouvaient pas combattre tout Rome et pour établir le royaume de Dieu. Ça ne se fait pas, parce que le royaume de Dieu commence là où Jésus est vraiment roi, dans le cœur. Ça, il faut que ça commence spirituellement parce que le problème du péché doit être résolu. Tant que le problème du péché existe, il y aura toujours la corruption, il y aura toujours la mort, il y aura toujours l'injustice sur terre. Et le royaume de Jésus n'est pas comme ça. Donc il faut que ça commence spirituellement. Et quand Dieu est prêt, quand c'est l'heure, toutes les autres choses vont arriver. Si Pilate était là, c'est parce que Dieu lui a donné le pouvoir. Il n'avait rien à craindre. Mais si seulement l'Église du 11e jusqu'au 13e siècle avait lu ce passage, il aurait compris que ce n'est pas aux disciples ou serviteurs de Jésus à combattre pour la foi. On aurait pu éviter toutes les croisades si seulement ils avaient lu la Bible. Ce n'est pas aux chrétiens de prendre les armes pour faire avancer le royaume de Dieu. Ça n'a rien à voir. Son royaume n'est pas de ce monde. Ce n'est pas comme ça. Mais maintenant, il dit, mais notez-le bien, mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici-bas. Ça viendra plus tard. Pilate lui dit, tu es donc roi? Pas lui, on comprend très bien. Il veut simplement une réponse. Et puis il voit cet homme spirituel qui lui donne des choses un peu floues et tout. Et puis, non. Réponds à la question, s'il te plaît. Es-tu roi ou non? Et puis, ben Jésus, tu l'as dit, je suis roi. Voici pourquoi je suis né et pourquoi je suis venu dans le monde, pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. Et Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? Parce qu'il ne s'y croyait pas. Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et leur dit, moi je ne trouve aucun motif de condamnation en lui, donc il le trouvait innocent. Normalement, Est-ce qu'on garde les prisonniers innocents dans la prison? Non. Normalement, ils devaient relâcher le prisonnier. Mais Pilate a eu une idée politiquement très habile, mais inspirée de Satan, pour garder Jésus en prison. Il voulait faire un petit pari, un petit arrangement pour qu'il soit bien vu par tout le monde. Et voilà toute son idée. Mais c'est parmi vous une coutume que je vous relâche quelqu'un à la fête de Pâques. Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs, que tout le monde sait innocent? Alors, de nouveau, ils crièrent non, pas lui, mais Barabbas. Oh, Barabbas était un criminel, était un brigand. Barabbas. Alors, Barabbas était un insurrectionniste. Il était meurtrier, il était donc brigand. Si vous voulez, relâcher Barabbas, c'est à peu près comme, peut-être que vous avez vu, lu justement, il y a quelques semaines, il y avait cet homme criminel condamné récidiviste qui a violé pas mal de personnes, qui était justement sorti. Pourquoi? Parce qu'il y avait faute d'orthographe. Alors, justement, la réaction de tout le monde, notamment le président, est plutôt normale. Non, il faut que cet homme soit à nouveau mis en prison et au plus vite que possible. Ça, c'est normalement la réaction. Mais vous voyez à quel point l'incrédulité aveugle les gens. Qu'ils disent non, 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 donne-nous le criminel et tue, justement. Crucifier cet innocent. C'est ça finalement ce qu'ils disaient. Et c'est ça finalement ce qu'ils ont obtenu. Alors, ce que je trouve intéressant, c'est que il fallait qu'il soit crucifié. Parce que Jésus, en fait, il l'a dit de quelle mort il allait mourir. Mais je crois aussi que c'est particulier parce que ce n'est pas seulement la faute à Israël. Donc, débarrassons-nous de ce concept. Mais que le monde juif et non-juif soit également coupable. Comme il est dit dès le début, la lumière est venue dans le monde et le monde ne l'a pas connu. Et c'est ça ce qui s'est passé. Le monde n'a pas connu. Et Barabbas, c'est un nom assez particulier. C'est un nom en araméen qui veut dire « fils du père ». C'est curieux ça, fils du père, qui était relâché, bien que connu et condamné en tant que criminel. Il n'y avait pas de question là-dessus. Mais ce fils de l'homme finalement, hein, fils d'un père humain, je dirais qu'il est même représenté par nous. Parce que qui sommes-nous? Condamné aussi par la loi, la sainte loi de Dieu. Séparé aussi de Dieu par nos péchés, par la façon dont nous marchions autrefois dans la chair. Et Dieu, dans sa grâce, a pris Jésus, le Fils de Dieu, et toute la colère de Dieu est versé sur lui pour que lui subisse la condamnation la plus sûre, pour que nous, les vrais Barabbas, deviennent les fils et les filles de Dieu. Qui est Barabbas? C'est moi, c'est vous, puisque Christ a payé notre dette, qu'il est mort même pour nous.